I'd like to have a democracy.
Au micro de Radio PFM, Paul Masson, militant de l'éducation populaire, intervenant régulier sur Radio PFM. Alors en ce moment, Paul, en France, il y a ce mouvement Nuit Debout, un mouvement qui questionne largement la démocratie, et notamment la démocratie par délégation en France. Alors avec toi, on a souhaité reparler de ces questions démocratiques et ça nous donne l'occasion d'un éclairage historique. On va commencer en 1789. Paul, c'est la naissance de la démocratie en France, 1789.
Oui. Alors déjà, la démocratie, il y a deux dimensions. La démocratie, c'est un mythe. Le mythe du gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est un système politique qui serait parfait, qui existerait en soi et qui serait le summum, indépassable. Sorti du mythe, la démocratie, c'est des réalités historiques qui se sont construites progressivement dans le temps et on ne peut pas parler à proprement parler de la démocratie, on pourrait parler des démocraties. La démocratie, elle n'est pas unique. On va essayer de regarder ça.
Alors, en 1789, quelle démocratie naît en France?
Alors, en 1789, quel est le problème qui se pose? On a une catégorie sociale naissante qui s'est organisée, qui dispose de l'argent, qui veut entreprendre, c'est la bourgeoisie, qui bute sur un système politique où la noblesse et l'aristocratie gouvernent de droit divin. Avant 1789, le roi est roi de droit divin et symboliquement, c'est un évêque, un représentant de l'Église, un représentant de Dieu qui lui met la couronne sur la tête. Dans ce cadre-là, la bourgeoisie n'arrive pas à s'y retrouver. On peut dire qu'il va se passer en 1789 un changement majeur dans les représentations. Parce que la loi ne va plus venir de Dieu, la loi vient des hommes. Mais il va se poser un certain nombre de questions. Cette loi, qui va la faire? Quelle est la légitimité de celui qui fait la loi? Et quand la loi sera faite, comment l'État ou la puissance publique va pouvoir assurer la pacification des conflits sociaux? Tous ces sujets-là se posent alors qu'ils ne se posaient pas quand c'était évident pour tout le monde que la loi était d'ordre divin. Ça, c'est peut-être en préalable à 1789. Alors, en 1789, cette bourgeoisie naissante va inventer la démocratie représentative, c'est-à-dire que qui c'est qui va faire la loi? Ça va être des représentants du peuple. En 1789, c'est la bourgeoisie qui prend le pouvoir. Le peuple va être considéré comme uniquement ceux qui sont en capacité de faire la loi. Qui c'est qui va être en capacité de faire la loi? Ça va être les plus riches. La démocratie va être organisée autour du vote censitaire. Seuls ceux qui payent le cens, c'est-à-dire seuls ceux qui disposent de l'argent, vont avoir le droit d'élire les représentants. Il y a une phrase qui permet de bien comprendre cette démocratie représentative, c'est une phrase qui date de 1789. C'est l'abbé Sieyès qui l'a dit lors d'un débat au Parlement. Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. C'est clair, les citoyens ne font pas la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus un État représentatif. Ce serait un État démocratique. Il annonce clairement qu'on n'est pas en train de mettre en place un État où le pouvoir est au peuple. Le pouvoir est aux représentants du peuple. Et il ajoute, le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler et ne peut agir que par ses représentants. C'est après la Révolution. Donc ça nous donne le cadre de ce qu'est la démocratie représentative. C'est très très important parce que cet aspect de la démocratie représentative va jouer et encore actuellement très très prégnante. Il y avait dans un film sur l'eau des usagers de l'eau qui allaient voir le responsable de la communauté urbaine chargé de ce service pour lui demander des comptes. Et le représentant les envoie promener en leur disant « Je suis élu, je n'ai pas de compte à vous rendre ». On a délégué un pouvoir à quelqu'un qui l'a pris et qui prive le citoyen de ce pouvoir qui est le sien. Donc je crois que c'est important de bien repérer que la démocratie représentative est une forme de démocratie, de repérer que quand elle naît, c'est uniquement ceux qui disposent de l'argent qui vont pouvoir exercer le choix de leurs représentants, et que ceux qui disposent de l'argent, ça se trouve être la force dominante à cette époque-là, la bourgeoisie.
Autre forme de démocratie qui, celle-ci, naît au cours du 19e siècle, c'est la démocratie sociale avec la montée en puissance de la classe ouvrière.
Alors voilà, la mise en place de l'industrialisation fait apparaître une nouvelle catégorie sociale qui va prendre de l'importance, ça va être la classe ouvrière. Cette classe ouvrière va progressivement prendre du poids et revendiquer possibilité d'exercer, elle aussi, le pouvoir, d'être prise en compte. Il y aura les révoltes de 1830 et il y aura plus particulièrement celle de 1848 où l'aspiration, c'est de faire la révolution complètement, celle qui n'a pas été réussie en 1789, puisqu'il y avait que ceux qui disposaient de l'argent qui pouvaient voter, et ça donnera le suffrage universel. Ce qu'on appelle le suffrage universel est loin d'être universel, puisqu'il y a plus de la moitié des Français qui en sont exclus, c'est toutes les femmes. Mais on est toujours dans cette idée de démocratie représentative. Et la classe ouvrière, une partie de la classe ouvrière encore maintenant, ne remet pas en cause cette notion de représentation en termes de démocratie. C'est tellement vrai que beaucoup d'organisations ouvrières reposent sur le schéma de « on élit des représentants qui décident à notre place ». Au niveau des organisations syndicales, elles sont structurées essentiellement sur ce modèle-là et ne remettent pas en cause la démocratie représentative.
Alors, toujours au 19e siècle, mais cette fois-ci à la fin du 19e, apparaissent des idées. Alors, mises en place peut-être sur une partie du territoire seulement et sur une période courte, les idées de démocratie directe, voire de démocratie économique, c'est lors de la Commune de Paris.
Alors là, on change complètement de modèle démocratique. On n'est plus sur de la démocratie représentative. On n'est plus sur la démocratie délégative, où le citoyen perd son pouvoir en le confiant à quelqu'un d'autre. On est sur ce qu'on appelle la démocratie directe. Alors, qu'est-ce qui va caractériser la démocratie directe? Non pas qu'il n'y aura pas de délégués, mais les délégués auront un pouvoir limité. On va les déléguer pour une tâche particulière. Ce n'est pas les pleins pouvoirs qu'on leur donne. Ils sont chargés d'avoir une responsabilité sur une tâche. Et ces délégués, s'ils ne font pas leur travail, peuvent être révoqués à tout moment. Donc, on change de modèle de démocratie. On n'a pas élu un président pour 5 ans, et pendant 5 ans, on n'a rien le droit de dire, c'est lui qui décide tout seul. On est dans un autre modèle de démocratie. Autre changement majeur pendant la Commune de Paris, c'est que la démocratie, c'est une démocratie intégrale. Jusque-là, et encore maintenant, la démocratie s'exerce au niveau du pouvoir du citoyen. Mais au niveau de l'entreprise, celui qui travaille est en état de subordination, c'est le terme de la loi, par rapport à celui qui est propriétaire du capital, qui lui seul a le pouvoir de décision au niveau de l'entreprise. Pendant la Commune de Paris, la première raison, c'est parce que la bourgeoisie a eu peur et a quitté le navire. Pendant la Commune de Paris, les entreprises sont dirigées par ceux qui travaillent. C'est les travailleurs qui exercent leur pouvoir démocratique dans l'économie. C'est un changement majeur. Vous comprenez bien que ce type de prise de pouvoir est excessivement dangereux pour la bourgeoisie qui est aux commandes. C'est excessivement dangereux et ça se terminera par une alliance entre cette bourgeoisie et les Prussiens pour clore la commune. Les chiffres parlent de 30 000 morts et un certain nombre de déportés de manière à casser complètement le mouvement. Et effectivement, le mouvement sera cassé pendant une génération.
On arrive au début du XXe siècle, alors on ne l'a pas forcément en France, hein, l'apparition de démocratie populaire.
Un autre modèle de démocratie. En 1917, on va appeler ça les démocraties populaires. Pourquoi ? Parce qu'elles s'inscrivent en opposition avec la démocratie bourgeoise. La démocratie bourgeoise, on a vu ce que c'était, de dire il faut que ce soit le peuple qui reprenne le pouvoir et pas la démocratie. Cette démocratie qui se met en place, ces démocraties populaires, se met en place sous la forme d'un coup d'État. Ce que fait Lénine en prenant le palais, c'est un coup d'État. Cette démocratie va s'organiser autour d'une caste, la caste de ceux qui tiennent le parti. Et on va avoir de nouveau une oppression entre une caste qui tient le pouvoir et la majorité du peuple. C'est aussi une forme de démocratie, on appelait ça les démocraties populaires.
Alors on avance toujours cette fois-ci dans le XXe siècle, on parle de l'après-guerre, le début des Trente Glorieuses en France et en Europe. Là les forces en présence, disons qu'il y a un compromis entre le capital et puis le travail autour d'une croissance forte.
Voilà, alors ce qui se passe après-guerre, c'est qu'au niveau du rapport des forces, entre le capital et le travail, les choses ont fortement changé, pour deux raisons. D'abord, la bourgeoisie s'est fortement compromise avec le régime nazi. Pour faire du profit, le système en place, on n'en a rien à foutre. Et les propriétaires du capital sont dans un rapport de force politique relativement faible. Le parti le plus fort, c'est le Parti communiste après-guerre. On est aussi dans une période après-guerre où la bourgeoisie se dit: si on ne lâche pas, il risque de se passer chez nous ce qui s'est passé en Union soviétique. On risque de tout perdre. Et il va y avoir un compromis intéressant qui va durer une trentaine d'années. C'est ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, entre le capital et le travail. En gros, les rôles sont répartis comme suit. Le propriétaire du capital, c'est toujours lui qui dirige les entreprises. Il n'y a pas de remise en cause au niveau économique, c'est toujours le patron qui dirige, alors que c'était remis en cause au moment de la Commune. Les travailleurs ne pensent pas la production, ils produisent du travail. Et le troisième acteur, ça va être l'État, qui lui va avoir pour fonction de réguler et de compenser les méfaits du capitalisme. Le capitalisme a tendance à produire de la pauvreté pour un certain nombre. Et c'est à ce moment-là que va se mettre en place la protection sociale, ce qu'on a appelé l'État social, où l'État prenait une partie de la valeur produite par le travail pour le redistribuer à ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'étaient pas en mesure de pouvoir gagner leur vie. Les chômeurs, les malades, les infirmes, les retraités, les mères de famille quand elles accouchaient, avec les allocations familiales, c'est la mise en place du système de protection sociale. Ça peut fonctionner parce que toute cette valeur supplémentaire produite, en gros, le propriétaire du capital, d'une année sur l'autre, voit augmenter la part qu'il a, les travailleurs voient augmenter leur pouvoir d'achat, donc ils sont relativement d'accord pour ce système. Le capitalisme apparaît comme un système parfaitement acceptable par les travailleurs. Il est d'autant plus acceptable qu'une partie de profit et qui va être réinvestie et qui va permettre l'augmentation du niveau de vie des travailleurs provient des pays du tiers-monde qui, eux, ne voient pas rémunérer leur travail. Donc c'est le compromis des 30 Glorieuses, en gros 45-73.
Donc une nouvelle donne finalement économique, mais démocratiquement un statu quo.
Un statu quo. dans les pays industrialisés, il y a le statu quo autour de la démocratie représentative. Et la démocratie représentative, dans ces moments-là, contribue à la régulation. Selon que la démocratie va dire « là, on en donne un peu trop au capital », eh bien, ça va être une assemblée plus à gauche qui va venir, qui en rajoutera un peu pour le travail. Si cette force elle n'est pas suffisante, le capital, la droite va revenir et les lois favoriseront le capital. Mais en gros, on a un compromis et la démocratie représentative fonctionne bien dans ce cadre-là. 73, c'est une année clé. On va avoir le choc pétrolier, c'est-à-dire le choc pétrolier, c'est important à repérer, c'est le tiers-monde qui dit « on veut notre part de la richesse mondiale ». Vous venez exploiter chez nous, vous l'avez pour pas grand-chose et on veut reprendre notre part. Le fait que le tiers-monde revendique une part plus importante fait qu'il restera moins à se répartir entre le capital et le travail.
Donc là, une nouvelle donne économique.
Alors, effectivement, on est arrivé, ça avait commencé à la fin des années 60, où le rapport du capital investi avait tendance à être moins important qu'avant. Et c'est là que la bourgeoisie international se dit il faut qu'on réussisse à agrandir nos marges. Et agrandir nos marges, c'est faire en sorte qu'on en donne moins à ceux qui assurent le travail. Pour réaliser ça, le capitalisme à l'échelle mondiale va inventer la mondialisation. C'est-à-dire de dire, en gros, sur l'Amérique du Nord et sur l'Union européenne, les salariés sont organisés. Si on va implanter nos entreprises dans le reste du monde, on aura un prolétariat qui aura des revendications moins fortes et on pourra refaire nos marges. Et c'est ce qui va se mettre en place pendant les années 80, pendant les années 90, et on n'en est pas sorti. C'est le moment où, pour augmenter leurs marges, les propriétaires du capital remettent en cause la notion d'État distributeur, redistributeur, cet État qui était né après 1945 pour faire en sorte que les victimes du système puissent avoir de quoi vivre, on va remettre ça en cause. On va remettre en cause les droits conquis et les droits acquis par les travailleurs. La loi El Khomri est une illustration de cette politique qui est toujours là, qui consiste à dire on veut réussir à casser tout ce qui avait permis ce contrat social entre 1945 et 1973. Par rapport à la démocratie, il y a un phénomène nouveau, c'est qu'on va renforcer le jeu sur les institutions. C'est-à-dire qu'on va essayer de vider les institutions de la démocratie, des institutions démocratiques créées par le système démocratique, de leur contenu, de la notion même de représentativité. Pour ce qui nous concerne, nous, ça va se faire essentiellement à l'échelle de l'Europe avec deux traités clés qui vont être le traité de Maastricht et le traité constitutionnel européen qui, quand il a été refusé en France, est repassé sous la forme de traité de Lisbonne. Pour qu'on ait quand même une idée, 70% des lois qui passent en France ne sont rien d'autre que la mise en application des directives européennes. C'est-à-dire qu'en fait, nos députés, on va leur demander de faire la loi dans un cadre qui a été pensé dans une autre instance, proposée par des personnes qui n'ont pas de légitimité élective. Les membres du Conseil européen, les membres de la Commission européenne ne sont pas élus. Autre illustration, qui est toujours dans la même logique, il s'agit de repenser le territoire pour les transnationales. On a la loi NOTRe qui est passée pour le grand public. La loi NOTRe, c'est celle qui fait que les régions ont grandi. La loi NOTRe, ce n'est pas seulement ça. C'est faire en sorte qu'on ait un regroupement des territoires sur des territoires bien plus grands. Et c'est intéressant, dans un village, je me rappelle une formation que j'avais faite où il y avait une maire d'une petite commune. Et je parlais des forces sociales au niveau politique. Mais elle dit, mais dans mon village, moi je ne vois pas du tout de forces sociales. Le village, il y a un intérêt général qui se dégage, qui n'est pas lié aux forces sociales. Puis on pousse un peu plus loin, c'est un petit village, et concrètement, au conseil municipal de ce petit village, toutes les familles, pas la famille moléculaire, mais la famille au sens large, étaient représentées au conseil municipal. On était dans un lieu de démocratie relativement directe. La loi NOTRe fait disparaître ça au profit de communautés de communes, et on en arrive à ce que les représentants qui vont décider pour la communauté de communes sont tous élus d'une manière indirecte. Ce n'est plus des gens qui sont directement élus, c'est des gens qui représentent leur commune à la communauté de communes. Vous voyez bien comment l'organisation sociale fait en sorte que les instances démocratiques sont plus ou moins vidées du pouvoir légitime qu'ils avaient directement de l'électeur.
Alors, si je comprends bien ton éclairage historique, Paul, les mouvements actuels Nuit Debout, Paris, Lille et dans les grandes villes, ce sont des réactions à ces manquements démocratiques, c'est ça ?
Je pense, effectivement. Et que si on veut le comprendre, on peut. Il y a plusieurs paramètres. Il y a d'une part, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de décomposition de la démocratie représentative au profit d'une ploutocratie. En gros, qui pense ce qui est bon au niveau de l'Europe ? En gros, c'est les grands groupes financiers et c'est les grandes transnationales qui vont voir les commissaires et qui leur disent « Vous voulez faire ça ? Voyez, on vous explique comment on peut le faire et on vous donne les moyens de le faire. » C'est-à-dire qu'on est passé d'une démocratie représentative à une ploutocratie habillée de démocratie. Et ça, on va avoir de plus en plus de personnes à qui on n'arrive plus à leur faire croire qu'il s'agit de démocratie. Le fait que les gens ne vont plus voter, c'est aussi un signe de dire « mais à quoi ça sert ?» Donc, il y a ce premier aspect. Le deuxième aspect, ça va être qu'au niveau des élus, des gens qui nous représentent, ils représentent autre chose que les populations qui les ont élus. Une illustration criante, c'est quand le peuple a voté non au traité constitutionnel et qu'on veut refaire passer le traité constitutionnel, on le fait passer par les élus du peuple. Si c'est les élus du peuple représentatifs du peuple, ils vont voter contre. Eh bien non, ils votent pour. On va avoir un petit nombre de personnes qui vont être au service de cette plutocratie et qui sont dans des places politiques, dans les grands médias, et c'est eux qui essayent de faire tenir et faire croire qu'on est toujours en démocratie. Mais ça aussi, ça ne marche pas. Et dans le mouvement des Nuits Debout, il y a aussi l'idée même de démocratie représentative. C'est-à-dire que c'est des personnes qui se méfient des élus politiques, mais aussi des représentations syndicales, des représentations associatives, où finalement, mais moi je suis le président de, je suis le secrétaire général de, alors j'ai une légitimité pour parler. Ils se méfient de cette représentation parce qu'on s'est aperçu que ce système de représentation avait des limites, parce qu'assez vite, les représentants représentaient des intérêts autres que ceux qui les avaient élus. Autre grande caractéristique, pour tenir dans les années 70-80, la bourgeoisie n'avait plus ses alliés traditionnels qui étaient la paysannerie, la petite bourgeoisie de province, commerçante, artisane, qui avait tendance à disparaître. Pendant les Trente Glorieuses, elle avait fait alliance avec la classe ouvrière. Ça marchait. Maintenant, elle avait besoin, pour continuer de gagner les élections, d'avoir des classes d'appoint, des alliés. Et les alliés, c'était essentiellement les classes moyennes, c'est-à-dire les employés, les enseignants, les travailleurs sociaux, tous ces salariés qui votaient et votaient à gauche, à droite, mais votaient pour le système en place. Et ces classes moyennes recevaient un revenu pour éviter et encadrer les débordements, les révoltes qui pouvaient naître. Ces classes moyennes vont voir à leur tour, diminuer leurs revenus et les enfants de ces classes moyennes vont voir qu'ils ne pourront plus espérer aussi bien que leurs parents. C'est-à-dire que, y compris les classes moyennes qui ont soutenu le système dans les années 70, n'acceptent plus ça. Et c'est ces catégories-là qui investissent des champs comme la nuit debout, mais aussi qui investissent l'idée, je pense, qui n'est pas du tout du même ordre, mais Colibri. L'idée, on va faire notre part. La politique, il faut que ce soit nous qui nous l'approprions. On ne peut plus le confier à une catégorie parce que cette catégorie travaille pour, pas pour nous. Il ne nous représente plus.
Alors, tu disais que les Nuits Debout contestent l'idée de représentation politique syndicale. Alors, c'est quand même très, très compliqué parce qu'on ne peut pas prendre toutes les décisions à 60 millions. Quoi. Qu'est-ce qui s'invente là ? Comment ça se passe un peu ? Qu'est-ce qui va découler de ça aussi ?
Alors, qu'est-ce qui va découler ? On ne sait pas. En 1788, on n'avait pas idée de ce que pouvait être la République. Il y avait quelque chose qui était en train de s'inventer. Et on n'avait pas de modèle clé en main. On a des expériences de représentation directe. On a parlé de la Commune de Paris. Il y a eu des expériences, je pense en Espagne. Toutes les fois, ça s'est terminé dans le sang. Mais on a eu quelques expériences. Et même les revendications actuelles, ça peut bouger, de Nuit Debout, ne remettent pas en cause le fait qu'il n'y ait pas de démocratie économique, que ce soit toujours les propriétaires du capital qui décident de qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit. Même si, dans ces mouvements-là, il y a conscience très nette que la manière de produire du système capitaliste est incompatible avec l'avenir de la planète. Maintenant, qu'est-ce qui peut se dégager de là ? On le sait pas. Et c'est pas joué. Et historiquement, on s'aperçoit que habituellement, ça résiste en face. Concernant les Nuits Debout, j'ai entendu déjà, mais on peut pas accepter en état d'urgence que des gens... L'état d'urgence, c'était parce qu'on veut empêcher la démocratie ou c'était parce qu'on voulait empêcher que des gens provoquent des attentats ?
Alors, mouvement revendicatif, mais aussi créatif ?
Alors, c'est en ce sens-là que c'est intéressant. C'est que c'est parti d'un mouvement revendicatif, mais une des dimensions très, très intéressantes dans Nuit Debout, c'est toute cette effervescence, cette recherche. On a quelque chose qui ferait penser un petit peu. Alors, est-ce que ça débouchera cette fois à ce qui s'est passé en mai 68, où on peut dire qu'une génération en mai 68 a pris une conscience politique ? Ça n'a pas débouché parce que la classe ouvrière, ça lui allait le compromis capital-travail et la fin de mai 68 s'est réglée sur on lâche des sous et tout le monde retourne au boulot. Alors, est-ce que là, quelle forme ça prendra ? Comment ça peut déboucher ? Tout est ouvert.
I'd like to have a democracy.
Paul Masson sur Radio PFM, son livre « Chemins et mémoires » est toujours disponible en librairie. Paul Masson animera un débat le 1er mai prochain au Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale à Arras. Ce sera à l'Office Culturel à 11h30 sur le thème « L'écriture du soi, guérison, réparation, transformation ». Et puis on vous rappelle ce rendez-vous radiophonique qu'on espère revendicatif et créatif, debout à la radio, que vous soyez étudiant, lycéen, syndicaliste, chômeur, précaire, salarié, paysan, artiste, intello, zadiste, ouvrier, mal logé, retraité. Radio PFM vous ouvre son antenne, l'ouvre à celles et ceux qui se mobilisent contre la loi travail et plus largement pour la convergence des luttes. Donc vous pourrez venir prendre la parole, échanger, lire des textes, des poèmes, pourquoi pas rapper, chanter, jouer de la musique, passer aussi des musiques en lien avec le thème. C'est en direct sur PFM 99.9 demain, vendredi 15 avril, soit le 46 mars. C'est à partir de 18h et pendant une partie de la soirée, peut-être de la nuit. Alors si vous souhaitez y participer, contactez-nous histoire qu'on prévoie les horaires de passage en antenne. Donc le mail c'est pfm@radiopfm.com, le numéro de téléphone 03 20
Democracy.